Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des grands entretiens de Storia Voce et merci pour votre fidélité. Après avoir apporté une réflexion sur l'identité de la gauche puis de la droite à l'époque contemporaine, Storia Voce souhaiterait aujourd'hui se pencher sur la Ve République. Non pas tant sur les jalons de son histoire, la manière dont le régime a accompagné les mutations sociales, non. Je souhaiterais aujourd'hui que nous nous plongions dans la science politique, dans le sens classique et noble du terme. Se pencher sur la Ve République, c'est d'abord en comprendre ses ressorts essentiels définis par le général de Gaulle en un temps de crise profonde. Se pencher sur la Ve, c'est en saisir ses mutations au fil des successions et donc des présidences de 1958 à nos jours. C'est enfin esquisser les difficultés actuelles du régime alors que l'élection présidentielle 2017 se profile. De quoi la Ve République est-elle le nom? C'est ce que nous allons voir avec Philippe Reynaud. Philippe Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur de sciences politiques, agrégé de philosophie et de sciences politiques. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment un dictionnaire de philosophie politique. Et vous venez de publier aux éditions Perrin l'esprit de la Ve République, l'histoire, le régime, le système. Alors il s'agit d'un ouvrage, vous le dites dans votre introduction, d'abord et avant tout un ouvrage de science politique dans le sens classique du terme. Mais ma première question, Philippe Reynaud, sera assez simple. Pourquoi cet ouvrage? Est-ce que, bien évidemment, il y a le contexte des élections présidentielles 2017. Est-ce que vous pensez qu'il faut en quelque sorte rappeler les fondamentaux de ce qu'est la Ve République pour pouvoir répondre à ce temps de crise que nous vivons aujourd'hui?
Ce n'est pas un ouvrage de circonstances. C'est un ouvrage qui résume les réflexions que je fais depuis assez longtemps, à la fois comme citoyen et comme professeur. J'ai passé l'essentiel de ma vie sous ce régime et je me suis dit qu'il serait temps pour moi de faire un bilan qui me permettrait d'abord de savoir ce que j'en pense, ce qui n'est pas très clair et ce qui n'est pas trop facile, et d'autre part, j'ai voulu essayer de montrer ce qui fait la continuité de ce régime par-delà les transformations, et par là même essayer, pour ce qui concerne la période présente, de voir ce qui ne va pas dans ce régime, dont je pense que beaucoup de choses sont assez solides. C'est un régime qui a rendu beaucoup de services au pays, mais qui est confronté aujourd'hui à une crise politique qui le dépasse, à mon avis, mais auquel il imprime évidemment sa forme.
Alors, venons-en directement...
À laquelle il imprime sa forme.
Oui. Venons-en directement aux origines de cette Ve République, parce que cela permet de répondre aussi à cette crise dont nous parlons. L'objectif du général de Gaulle, c'était bien, par formation politique en quelque sorte, de répondre à la crise de l'exécutif. Et cela est très net, et je n'invente absolument rien, je vais même enfoncer une porte ouverte. La Ve République naît d'une crise politique.
Oui, l'occasion de la naissance de la Ve République, c'est une crise politique qui est déterminée essentiellement par la guerre d'Algérie et par l'incapacité du régime précédent à faire face à la situation créée par les révoltes en Algérie et par un certain nombre de choses. Mais c'est un régime qui dont les origines viennent d'assez loin. Ça fait déjà quelques dizaines d'années que la France est confronté à un problème de faiblesse du pouvoir exécutif qui a éclaté notamment au moment de la guerre de 39-45 et qu'on a essayé de résoudre par divers moyens. Et De Gaulle se situe donc dans une tradition de réforme institutionnelle générale, mais dans laquelle il représente une pensée, une approche qui est différente de celle de la plupart des républicains.
Est-ce que cette Ve République, dans la pensée de De Gaulle, se détermine à travers le passé de la guerre, guerre qu'il a vécue, guerre qui est très prégnante dans toutes les familles françaises, dans l'imaginaire collectif. Est-ce que, au fond, il y a eu au début du siècle, au début du XXe siècle, un ouvrage de Marcel Samba, Faites la guerre, sinon faites un roi, qui sous-entendait bien que la question de la guerre devait être, la question de la politique extérieure devait être traitée par un exécutif fort. Est-ce que De Gaulle pense à cela quand il imagine, quand il dessine dans la Ve République?
Marcel Samba, qui était un socialiste. Un socialiste, qui a d'ailleurs joué un rôle important au moment de l'Union sacrée, s'interrogeait plutôt, si je me souviens bien, sur sa question, c'était plutôt faites un roi, sinon faites la paix.
Sinon faites la paix, oui.
Oui, parce que précisément, il considérait que la guerre pouvait poser un problème à la République. Disons que je pense que dans l'expérience de De Gaulle est évidemment marquée par la guerre, d'abord par ce qu'on appelle la Grande Guerre, bien sûr, par la guerre de 14, qui a été l'occasion d'ailleurs de son premier ouvrage important, la Discorde chez l'ennemi, qui est une analyse tout à fait remarquable des raisons de la défaite allemande, et qu'il attribue d'ailleurs à la faiblesse du pouvoir civil par rapport au groupe de pression militaire et à ce qu'on appelait autrefois le militarisme prussien. Et elle est marquée ensuite, je dirais, pas tellement par la guerre que par la défaite. C'est ça, je crois, qui le frappe le plus, c'est la défaite de 40 et l'effondrement subi de cette armée qui passait pour la meilleure d'Europe et peut-être pour la meilleure du monde, qui avait encore, mais avec l'appui de tous les alliés, obtenu la victoire en 1918. Et surtout l'effondrement de ce régime républicain qui était à l'époque présidé par l'honorable Albert Lebrun, dont il dit quelque part dans ses mémoires qu'il ne lui manquait que deux choses pour être un chef d'État, qu'il fût un chef et qu'il eût un État. Mmh. Donc il s'agit en effet pour lui de restaurer le pouvoir d'État. Et ce pouvoir d'État suppose un pouvoir exécutif fort qui soit relativement indépendant des contingences politiques, qui, de ce fait, selon lui, ne doit pas émaner directement de l'Assemblée nationale. Et il a, comme on le sait, des projets de réforme déjà assez élaborés. Au moment du gouvernement provisoire, c'est ce qui développe dans le célèbre discours de Bayeux, dont on considère, avec quelques raisons, que c'est déjà une esquisse, à certains égards, de ce que sera la Ve République. Mais ce qu'il faut néanmoins bien voir, c'est que De Gaulle est un militaire. Mais ça n'est absolument pas un militariste. Ça n'est pas un homme qui a des projets de dictature. L'idée, c'est celle qu'on trouvera développée dans le fil de l'épée. L'idée fondamentale, bien sûr, c'est que l'épée reste l'axe du monde. C'est-à-dire que les relations internationales, qui en dernière analyse peuvent déboucher sur la guerre, sont le déterminant fondamental de la politique, mais l'objet de la politique, c'est d'assurer la prospérité et la permanence de du corps politique, de la nation, qui ne se confond nullement avec son armée. C'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, que dans comme je le disais, dans la défaite, c'est la discorde, c'est l'ennemi. Il explique très bien que le régime allemand de la guerre de 14 a souffert du poids excessif des milieux militaires dans la décision politique. Mais son idée, donc, c'est qu'il faut un pouvoir exécutif fort. Mais ce qui est une idée commune, et commune à beaucoup de républicains, le problème de la réforme gouvernementale, et comme disait Léon Blum, c'est un problème rémanent dans la littérature de la Troisième République. Ce régime pouvait être caractérisé, c'est une formule des juristes, comme un parlementarisme absolu, c'est-à-dire un régime dans lequel la totalité du pouvoir revenait en théorie à l'Assemblée nationale, mais on savait depuis longtemps que l'Assemblée nationale ne pouvait pas réellement exercer sa souveraineté sans la déléguer de manière durable au Premier ministre ou au Président du Conseil, comme on disait alors, à travers des mécanismes dont il y a une longue histoire constitutionnelle, les mécanismes des décrets-lois, par exemple, qui permettaient au gouvernement de légiférer avec juste un aval général du Parlement. Mais lui ne se situe pas tout à fait dans cette tradition, parce que son but, c'est de restaurer un pouvoir exécutif fort, ou un pouvoir gouvernemental, peut-être l'expression serait meilleure, qui est, par certains côtés, indépendant du législatif. Alors, avec cette ambiguïté qui est présente dès les origines de la Ve République, c'est que celle-ci a un président qui est supposé émaner, dont le pouvoir est supposé émaner de la nation, mais elle a également un gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée nationale, ce qui nous donnera ce système complexe qu'on appelle parfois la diarchie de la Ve République, c'est-à-dire cette dualité du Premier ministre et du Président qui est présente depuis le début et qui n'a pas cessé de poser des questions rémanentes. Alors, au-delà de cela, je crois qu'il y a chez De Gaulle une vision assez ample de l'histoire de France, qui n'est pas du tout une vision contre-révolutionnaire, c'est une vision d'une certaine manière continuiste de l'histoire de France, qui admet que la Grande Révolution est l'héritière légitime de la monarchie absolue, mais qui considère néanmoins que depuis 1789, il y a quelque chose qui s'est brisé avec la fin de l'institution royale, et qui devrait d'une certaine manière être retrouvé. Il évoque d'ailleurs dans ses mémoires le fil de l'histoire qui a été coupé, dit-il. Attendez, il faudrait compter.
Dans ses mémoires
1958 moins 1789.
Ça fait bien 170 ans, 169 ans.
169
voilà,
ans.
Voilà, vais-je saisir l'occasion historique que m'offre la déconfiture des partis pour doter l'État d'institutions qui lui rendent sous une forme appropriée au temps moderne la stabilité et la continuité dont il est privé depuis 169 ans.
Oui, voilà. 169 ans, c'est voilà. Un chiffre très précis qui renvoie à 1789. Et au-delà, bien sûr, à 1793. Mais il s'agit donc, d'une certaine manière, de retrouver la continuité de l'État français, dont il considère qu'il a, ce qui est une vision assez classique, qu'il est la matrice de la création nationale française. Et qui d'ailleurs, pour lui, a toujours eu des orientations de politique internationale relativement constantes, ou du moins aurait dû avoir une orientation constante qui vise la puissance, mais qui ne vise pas la domination de l'Europe, qui vise la puissance indépendante, qui vise peut-être à faire de la France la première puissance en Europe, mais pas une puissance de type impérial sur l'Europe.
Alors, il y a un... Est-ce qu'il y a une dimension, on va dire, même sacrée dans son projet politique, de cet État qui, au fond, est garant de l'intégrité de la France, de ce qu'elle est? Vous parliez de l'histoire, mais de ce qu'elle a été dans l'histoire, de ce qu'elle est aujourd'hui et de ce qu'elle sera demain, l'État étant comme une force de progrès face aux querelles, j'allais dire, internes, qui caractérisent tant le peuple français.
Je ne sais pas si le terme de sacré est véritablement approprié. Il y a bien sûr dans la vision que de Gaulle a de la nation française quelque chose comme une mystique patriotique qui est patente d'ailleurs dans les célèbres premières pages des mémoires. Je me suis toujours fait une certaine idée de la France qui est semblable à la Madone des cathédrales, etc. Mais sacré peut-être suggérerait une idolâtrie du pouvoir politique qui me semble pas être le
cachet de Gaulle.
Peut-être entre autres choses parce que c'est un homme qui est profondément chrétien, profondément catholique et qui ne considère pas, je pense, qu'on doive faire de l'État un dieu, si vous voulez. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une dimension, sinon sacrale, du moins permanente et pas transcendante, mais il y a une dimension de l'État qui dépasse évidemment ce qu'est la nation à tel ou tel moment. La nation telle que la voit de Gaulle, c'est un corps politique qui est sinon éternel, du moins durable, et qui transcende évidemment ce que veulent les Français ou ce que désire le peuple français à tel ou tel moment. Il y a une distinction qui est assez simple et assez connue, d'ailleurs, entre la France et les Français. Elle n'est pas douteuse.
Alors justement, vous parlez de la France et des Français. Il y a un lien particulier qui est créé par le suffrage universel, c'est-à-dire que la révolution finalement gaulienne, elle s'opère en deux temps, en 1958 et en 1962. Et 1962, donc c'est ce lien si particulier que crée le suffrage universel dont on parle encore aujourd'hui, en dépit des affaires, etc. C'est un peu le discours de François Fillon qui tient à montrer que il y a une vraie une volonté de symbiose entre le peuple et son représentant qui doit être au-dessus des partis.
Oui, mais le malheur, justement, c'est que la réforme de 62 a abouti d'une certaine façon au résultat inverse. Pour être exact, je crois que d'emblée chez De Gaulle, il y a l'idée que l'État restauré devra s'appuyer sur le consentement et sur le consentement explicite de la communauté des citoyens.
Oui.
Mais dans la première période de la Ve République, c'est-à-dire la période qui va de 58 à 62, De Gaulle n'a pas été élu au suffrage universel. Il a été appelé par le régime précédent. Il est d'ailleurs son premier titre, c'est d'être le dernier président du Conseil de la 4e République. Il ne faut jamais l'oublier.
Oui.
C'est comme ça qu'il arrive aux affaires. C'est comme président du Conseil de la 4e République. Et ce qu'il considère à ce moment-là, c'est qu'il a une légitimité historique qui n'est pas une légitimité fondée sur le suffrage universel, mais sur un moment exceptionnel dans lequel il a joué le rôle que nous savons et qui est son premier titre à gouverner, à condition que ça soit approuvé par le peuple français, mais qui évidemment ne peut pas être transmis à ses successeurs. Alors je crois qu'il faut voir que dans l'esprit de De Gaulle, l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est le substitut d'un type de légitimité qui était la sienne et qui ne se retrouvera pas. On ne retrouvera pas, bien entendu, la légitimité royale des anciens rois de France, mais on ne retrouvera pas non plus la légitimité de l'homme du 18 juin. Et c'est pour cette raison qu'il choisit de proposer cette, dans des conditions très discutées d'ailleurs, cette réforme de 1962, qui n'avait pas été possible d'ailleurs dans les premiers temps, parce que à l'origine, la constitution de la Ve République, c'est la constitution de l'Union française, incluant les colonies. Et que à ce moment-là, une élection du président au suffrage universel aurait entraîné un élargissement du corps électoral à la population des colonies, qui n'était pas du tout ce que souhaitait le général de Gaulle. Alors là, la décision de 62, donc, c'est le fruit, bon, de l'expérience des attentats auxquels il a échappé, du fait que sa personne est fragile, qu'il faut assurer la succession, qu'il est nécessaire de lui donner une base plus solide que l'élection par le collège restreint qui était jusque-là le système en vigueur, et que c'est devenu possible parce que, d'une certaine manière, l'indépendance de l'Algérie a recentré la nation française sur son territoire fondamental. Bon, bien entendu, les territoires d'outre-mer, il y a toutes sortes de choses qui sont évidemment pas exclues, dont la population n'est évidemment pas exclue, mais c'est une France post-impériale qui adopte l'élection du président au suffrage. France qui vient après la perte de l'essentiel de l'empire colonial. Et d'autre part, il y a cette idée, en effet, que le président sera l'élu de la nation et pas l'élu des partis. Mais là, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que très vite, cette interprétation va être démentie, parce que, quoi qu'ait voulu le général de Gaulle, celui qui est l'élu du suffrage universel, c'est l'élu d'une majorité contre une minorité, une majorité qui peut changer. Il est rééligible, mais donc il peut ne pas être réélu. Et on n'est plus du tout dans le type de communication directe qui existait entre 58 et 62. Et le premier choc sur ce plan, c'est le fait que de Gaulle n'est pas réélu au premier tour. Il fait un premier tour avec 45% des voix. Évidemment, aujourd'hui, les candidats rêveraient d'avoir un résultat
45%.
Mais il le fait d'ailleurs sans avoir fait campagne, sans être intervenu, parce qu'il considérait que ça n'était pas à lui. Comme il l'avait dit, je crois, d'ailleurs, on n'imagine pas que je vienne à la télévision en disant « Voilà, je m'appelle Charles de Gaulle, j'étais là, etc. » Bon, c'est tout à fait exclu, et il se trouve confronté à la difficulté née du ballottage, et ce qu'il faut voir d'ailleurs, c'est que son pouvoir ne sera jamais plus le même après 65. Il a gagné de justesse les élections législatives de 67, de manière là aussi inattendue. Il a dû gouverner de plus en plus avec une majorité dans laquelle son mouvement, qui prétendait ne pas appeler parti, mais enfin son mouvement devait avoir d'autres alliés dans la droite modérée. Et quand survient la crise de 1968, il finit par abandonner son idée de départ qui était de surmonter la crise par un référendum sur la participation, etc., ce qui aurait relancé le système de 58. Il choisit, sur le conseil de Georges Pompidou, le sage conseil, à mon avis, la dissolution de l'Assemblée nationale. Il gagne triomphalement les élections législatives de 68, bien entendu. Mais par la suite, il essaye une dernière fois de revenir au mode de gouvernement de 58, c'est-à-dire la communication directe, le référendum, pour faire passer un grand projet réformateur, et il échoue en 1969.
Ouais.
Donc on peut dire, si vous voulez, que cette réforme de 62, qui est évidemment décisive, a assuré sans aucun doute la durée du régime, et elle a modelé toute la vie politique ultérieure. Mais elle constitue en elle-même un changement par rapport au au modèle initial.
C'est ce que vous appelez en fait le passage de la République plébiscitaire au présidentialisme majoritaire, dont on ne sortira pas jusqu'à aujourd'hui.
Alors, dont on ne sortira pas parce que c'est là, je crois, que le régime devient un système politique cohérent dans lequel il y a évidemment l'élection du président au suffrage universel. Il y a également une disposition importante qui n'est pas constitutionnelle mais législative, qui est le mode de scrutin en vigueur dans les élections législatives et à la présidentielle, le mode de scrutin majoritaire à deux tours. Il y a les mécanismes de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. Et tout cela, en effet, va aboutir au régime tel que nous le connaissons à partir de Pompidou, mais qui doit surmonter quand même plusieurs difficultés importantes, plusieurs tests de durée qui sont décisifs. Le premier qui est passé assez facilement, c'est le passage de Gaulle à Pompidou, qui ne se fait pas de manière totalement indolore, puisque Pompidou a pris un peu ses distances à l'égard du général de Gaulle, qui l'avait d'ailleurs mis à l'écart après 68. Mais enfin, sous Pompidou, la Ve République devient en effet un régime de présidentialisme majoritaire dans lequel le président est certainement l'élu de la nation tout entière, mais c'est un élu qui s'appuie sur une majorité parlementaire et qui d'ailleurs suscite en contrepartie une opposition parlementaire qui va très vite déboucher sur l'union de la gauche parce que c'est le symétrique qu'appelle le mode de scrutin en vigueur. La deuxième étape importante de Giscard d'Estaing, c'est l'étape où on voit que la Ve République peut continuer à survivre quand elle n'est plus dirigée par un gaulliste et qu'elle s'est donné un président qui arrive au pouvoir de manière tout à fait conforme à l'esprit du régime, mais sur un fond de division du parti gaulliste et de ralliement de celui-ci dirigé par Jacques Chirac à un président qui n'est pas gaulliste et qui aura d'ailleurs une politique étrangère différente de celle de son prédécesseur et qui essaiera de faire des réformes constitutionnelles qui n'aboutiront pas toutes mais qui s'éloignent du schéma initial. Le troisième moment, c'est évidemment l'alternance qui montre que 1981, qui montre que le régime peut survivre au passage de la droite à la gauche, et dans lequel, d'ailleurs, on y reviendra peut-être, Mitterrand a très largement utilisé les prérogatives du président pour discipliner sa majorité, et notamment pour régler ses rapports avec le Parti communiste. Et enfin, le moment décisif, c'est la situation créée en 86 par la victoire de la droite aux législatives, où on choisit la cohabitation, qui est quand même un système très original, puisque l'essentiel du pouvoir exécutif passe entre les mains du Premier ministre, et que le régime devient ou redevient ce que, d'une certaine manière, il n'avait jamais cessé d'être, un régime parlementaire, dans lequel, en l'absence de majorité, le président laisse beaucoup de ses pouvoirs au Premier ministre.
Mais il pouvait y avoir un blocage institutionnel au moment de la cohabitation ?
On a vu que non. C'est-à-dire, ce que je crois, c'est qu'il y a eu... c'est une question qui était lancinante depuis longtemps. Tout le monde savait que c'était le talon d'Achille du régime, c'est qu'est-ce qui se passerait si le président n'avait pas le soutien de la majorité à l'Assemblée, si, en gros, s'il perdait les élections. Et le général de Gaulle était assez obscur sur cette question. Giscard d'Estaing avait dit dans son discours de Verdun sur le Doubs, avant les élections législatives de 78, qu'il resterait président de la République, mais que ça n'empêcherait pas la gauche d'appliquer son programme. Donc, d'une certaine manière, l'acceptation de la cohabitation est déjà inscrite, je pense, dans ce discours de Giscard d'Estaing. Et la question se pose en 1986, parce qu'on voit bien qu'il va y avoir à cette occasion un changement majeur, mais dans lequel les adversaires de principe de la cohabitation vont rester très, très minoritaires. Ces adversaires, c'est d'un côté Marie-France Garraud et Pierre Juillet, qui sont les gardiens du temple de l'orthodoxie gaulliste ou pompidolienne, qui avait été conseiller de Chirac et que Chirac avait un petit peu congédié par la suite, se plaignent de la trahison du régime par Mitterrand, qui est le plus grand des mauvais anges, qui est un personnage luciférien soutenu par Balladur et Chirac. Mais eux ne sont pas réellement des acteurs politiques, ce ne sont pas des élus, ce sont des conseillers. Le seul qui tente d'arrêter le processus qui conduit à la cohabitation, c'est Raymond Barre, qui reste minoritaire dans son cas. Et ce qu'on voit bien, c'est que pour que la cohabitation n'ait pas lieu, il aurait fallu que le président de la République considère que sa défaite devait entraîner sa démission. Mmh. C'est tout. Le président de la République avait les moyens constitutionnels de rester. On ne savait pas exactement quels seraient ses pouvoirs une fois qu'il restait, mais personne ne pouvait le contraindre à partir. Mmh. On aurait pu essayer de faire ce qu'avait fait le Parlement contre Alexandre Millerand sous la Troisième République, mais d'une part, je trouve que c'était un rôle qui n'allait pas très bien à un parti gaulliste que de s'attaquer directement à l'institution présidentielle pour la sauver. En tout cas, ça n'a pas été fait parce que, de toute façon, Jacques Chirac considérait que c'était son tour de venir au pouvoir, qu'il était le chef naturel de la majorité, et pensait que, immanquablement, la victoire de la droite aux législatives serait prolongée par son élection en 88 et que tout entrerait dans l'ordre. Mmh. Tout n'est pas rentré dans l'ordre puisque Mitterrand a été réélu. Mais Mitterrand, ensuite, a gouverné avec une majorité simplement relative, en jouant tantôt avec les centristes, tantôt avec les communistes, mais sur un fonctionnement qui était fondamentalement majoritaire. Et depuis, on a toujours eu des situations dans lesquelles soit le président retrouvait tous ses pouvoirs parce qu'il avait le soutien de l'Assemblée, soit on entrait dans le régime dit de cohabitation, dont les effets qu'on exagérait peut-être ont conduit d'ailleurs à, je crois que c'est la raison déterminante de la réforme qui a permis le passage au quinquennat, qui est le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais ce qui reste constant, me semble-t-il, c'est que le régime est à plein régime, si je veux dire, quand on est dans une situation avec un président majoritaire, et qu'il a les moyens de fonctionner comme régime parlementaire de type un peu particulier, quand ce n'est pas le cas.
Est-ce que une des constantes de cette Ve République, en dehors bien évidemment de la période gaulliste, ce n'est pas de jouer tout le temps au centre? Quelle est la place du centre dans cette histoire de la Ve République? Vous citez d'ailleurs à un moment, en 1988, donc réélection de François Mitterrand, vous citez l'article de François Furet, Jacques Bulliard et Pierre Rosanvallon, un article au titre évocateur, hein, « La République du centre », je le cite, « au moment où elle manifeste un consensus jamais atteint depuis 1789 sur ses institutions, la France n'a plus de parti communiste puissant ni de droite majoritaire, elle est gouvernée au centre par un parti socialiste dominant et comporte une extrême droite qui n'a jamais réuni autant de voix ». Est-ce qu'on ne... Aujourd'hui, en fait, on pourrait très bien plaquer cet article à ce qu'il se passe aujourd'hui, parce que après avoir dénoncé la finance, François Hollande s'est vite converti à la réalité économique et puis a gouverné, au centre, en entreprenant, un esprit de gauche, uniquement des réformes sociétales, exactement comme par exemple l'a fait le socialiste espagnol.
Je crois que la question du centre, c'est une des questions difficiles de ce régime. Et c'est une bonne idée de partir du petit livre, pas simplement. C'est un recueil d'articles, de trois articles rédigés par Jacques Vulliard, Pierre-Audin Vallon et surtout François Furet, en 88, la République du centre. Parce que ce que montrent très bien ces auteurs, c'est qu'on a un système politique qui, d'une certaine manière, se recentre explicitement, c'est-à-dire dans lequel le gaullisme intransigeant, patriote, indépendant, etc., est en train de perdre une partie de sa puissance. D'un côté, dans lequel la gauche, enfin le Parti socialiste, a abandonné le projet de rupture avec le capitalisme qui fondait son alliance avec le Parti communiste. Mais, comme le voient très bien ces auteurs, d'ailleurs, qu'il ne faut pas d'ambiguïté, République du centre ne veut pas dire nécessairement République gouvernée par le centre. Et je crois qu'une des constantes jusqu'ici de la Ve République est en fait qu'elle a obéi à une certaine mécanique fréquente, disons, dans les systèmes majoritaires, qui font que, comme le disait Maurice Duverger, qui était un fervent partisan des systèmes électoraux majoritaires, les Français seront gouvernés au centre, mais pas par le centre. C'est pas tout à fait la même chose. Alors le principe sur lequel on peut s'appuyer pour expliquer ça, c'est quelque chose qui est connu en fait depuis Montesquieu. C'est le fait que dans les systèmes majoritaires qui débouchent facilement sur l'alternance, il n'est pas fréquent, et en tout cas il n'est nullement inévitable, qu'on ait des alternances entre partis extrêmes ou partis poursuivants des objectifs de transformation révolutionnaire, tout simplement parce que pour triompher dans une élection majoritaire, il faut pas simplement gagner le soutien de ses partisans, mais il faut gagner les électeurs hésitants, les électeurs qui vont d'un parti à l'autre et qui ont peu de chances de se rallier à un programme absolument radical, surtout si ce programme paraissait mettre en danger leur liberté ou leurs intérêts fondamentaux. Alors ça fait que, finalement, le régime n'est pas absolument libéral, il a tous les défauts du monde, mais il a toujours été, d'une certaine manière, gouverné en fonction des aspirations moyennes de la population. Il a pu moderniser profondément la société française, mais c'est un régime qui n'a jamais été favorable aux politiques révolutionnaires ou aux politiques contre-révolutionnaires ou radicalement réactionnaires. De Gaulle a gouverné à sa manière, mais il a après tout installé, stabilisé le système de l'État-providence français, avec un jeu compliqué avec les communistes. Giscard d'Estaing, le premier, a voulu que la France soit gouvernée explicitement au centre, mais finalement il s'est rallié à la solution majoritaire parce qu'il n'en avait pas d'autre à sa disposition. Et Mitterrand n'a pu rester au pouvoir et être réélu que parce qu'il a très vite abandonné le programme commun, dont d'ailleurs il avait déjà, d'une certaine manière, dissous la substance avant même son élection, lors de sa renégociation avec les communistes. Et la période flamboyante de l'Union de la gauche, ça dure 2 ans. Et au bout de 2 ans, on revient assez facilement à des fondamentaux relativement modérés. Et on ne sort pas de ce système. Alors depuis cette époque, d'ailleurs, la France a connu beaucoup d'alternance, mais à l'intérieur d'un système de choix relativement limité, qui sont peut-être d'ailleurs à l'origine d'une certaine insatisfaction, c'est que entre les gouvernements dominés par le RPR ou par ses différents avatars et les gouvernements dominés par le Parti Socialiste, il n'y a pas une telle fracture. Il y avait un certain nombre de choses qui sont communes à partir de 83-84, c'est-à-dire finalement on accepte pour l'essentiel l'économie de marché, la gauche fait des privatisations autant qu'elle peut, on accepte le maintien de l'État-providence, la droite renonce à ses ambitions thatchérienne dès le gouvernement Chirac de 86, dont les velléités échouent de ce point de vue-là, et tout ça est sanctionné par la politique européenne. Alors tout ça, c'est d'une certaine manière le programme du centre. Dans un système qui fait que ceux qui sont les porteurs officiels de cette politique, les centristes, sont exclus du pouvoir, parce qu'ils ne peuvent arriver au pouvoir que comme fraction modérée et minoritaire d'une coalition majoritaire. Alors, ce qui est nouveau actuellement, c'est le fait qu'on a une crise, si vous voulez, du système partisan qui s'était mis en place dans les années 80, dans lequel on peut avoir une solution centriste pour la première fois qui semble devenir plausible. Bon, au jour d'aujourd'hui, le 22 mars, mais on ne sait pas encore, on est encore à quelques semaines de la présidentielle.
À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes à 33 jours, je crois, ou 32 jours du premier tour des élections présidentielles. Donc, Emmanuel Macron est donné en tête avec, par les sondages, avec Marine Le Pen, aux côtés de Marine Le Pen.
Mais rien ne prouve
on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait.
On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, cet avenir n'a jamais été aussi clairement envisageable. Et c'est ça la solution nouvelle, la situation nouvelle. La situation nouvelle, d'ailleurs, c'est qu'en l'occurrence, Emmanuel Macron, avec un programme en demeurant très différent, réussit ce que François Bayrou a essayé de faire pendant 20 ans. Semble capable de réussir, pour être précis, à faire ce que Bayrou n'a pas réussi à faire pendant 20 ans, c'est-à-dire instaurer un nouveau système politique qui serait dominé par le centre, avec une coalition s'organisant autour du centre et pas autour d'un des deux blocs majoritaires, à partir d'une élection présidentielle. C'est ça qui est nouveau. Il y a quand même quelque chose qui reste du système initial. Mais jusqu'ici, disons que le régime français, c'est un régime donc de présidentialisme majoritaire, dans lequel l'alternance est possible et d'ailleurs extrêmement fréquente. Dans lequel, depuis 30 ans, l'espace de décision politique se situe dans un cercle relativement étroit et qui correspond quand même en grande partie à ce qu'on peut appeler une orientation modérée ou une orientation centriste.
Donc au fond, si on vous suit bien, donc 88, c'est ce que vous dites, 1988, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est un peu le zénith, mais en même temps, il y a une forme de déclin dans la mesure où les contestataires sont poussés et à droite vers le Front National et à gauche vers l'extrême gauche, que ces gens n'ont plus vraiment voix au chapitre, et que l'élection donc de 2017, finalement on a le choix entre deux ruptures ou une continuité. Une rupture de gauche, vraiment de gauche, une rupture vers le Front National, ou bien une continuité telle que l'incarne Emmanuel Macron.
Je crois qu'on a le choix entre trois ruptures. C'est-à-dire que ce qui me paraît certain, c'est que le système est réellement, enfin le système politique est réellement en crise. Alors, j'insiste sur le fait que le...
Est réellement, pardon, j'ai pas...
Est réellement en crise. Alors, le système politique, j'insiste sur le fait que ça n'est pas le régime politique. Je crois, pour ma part, que les discussions sur la Ve République, la Sixième République, etc.,
ne sont pas importantes.
Sont en grande partie vaines, parce qu'elles agitent des difficultés qu'on connaît depuis toujours. Dans le cas des partisans de la Sixième République, on a une sorte d'invocation de la tradition jacobine qui est un petit peu de la mythologie. Mais pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de difficultés dans la... Enfin, il y a évidemment, la Constitution a des défauts, on peut la corriger, la modifier, etc. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que cet élément central qu'est l'élection présidentielle reste au premier plan. C'est encore là que s'organisent les choses. Mais ce qui a changé en profondeur, c'est que le système qui s'est mis en place en 88 arrive peut-être à épuisement. Alors, on a encore quelques minutes ?
Oui, une deux minutes, on va dire.
Bon, ce système a succédé à ce que Duverger appelait le quadrique bipolaire, où il y avait quatre partis, apparemment opposés par un choix de société fondamental, dont on a vu qu'il avait un contenu assez réduit quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, ce qui fait que normalement, on va vers quelque chose de plus consensuel. Simplement, autrefois, le système était consensuel, peut-être parce qu'il y avait l'idée d'une alternance grandiose qui était possible. Maintenant, il n'y a plus d'alternance grandiose possible à l'intérieur du système. Donc, ce système plus modéré, plus consensuel, a créé... pas tellement sur sa gauche d'ailleurs, mais surtout sur sa droite, une zone d'insatisfaction considérable qui va en plus avec la montée de l'abstention. Et ce qui fait, à mon avis, qu'on est en crise, c'est tout simplement que on a aujourd'hui, si vous voulez, le système marchait tant que le Front National était en dessous de 20%. À partir du moment où il est en permanence en dessous de 20%, où il est capable... Évidemment capable, non pas par accident comme en 2002, mais par ses forces propres, d'arriver au deuxième tour de la présidentielle, le système ne marche plus. Tout simplement parce que on ne peut plus bâtir les alliances et les coalitions de la même manière. On a 20 ou 25% de l'électorat qui est en dehors de toute alliance gouvernementale possible. On a un système dont les distorsions de représentation sont de plus en plus importantes. Et je crois que c'est ça la principale difficulté de la Ve République.
Eh bien, je vous donne rendez-vous, Philippe Reynaud, peut-être dans 5 ou 10 ans, pour faire un nouveau bilan de l'évolution politique de cette Ve République que vous décrivez merveilleusement donc dans votre livre, L'Esprit de la Ve République, l'Histoire, le Régime, le Système, un ouvrage paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup Philippe Reynaud, merci à vous, merci aussi à Amandine pour son aide dans la réalisation de cette émission. Georges était à la technique, merci à lui, et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine. Merci et à très bientôt. Restez fidèles à Storia Voce.